Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode en duo où on va parler de stratégie de contenu. Avec mon invité, on va évoquer les contenus courts et les contenus longs, expliquer ce que c'est, quels sont les enjeux aujourd'hui et comment on peut réaliser un process pour mener à bien une bonne stratégie de contenu. Je vous laisse donc avec la suite de l'épisode et vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast un peu différent de ce que je fais d'habitude puisque c'est la première fois qu'on va évoquer une thématique sur la communication digitale et les réseaux sociaux. J'ai eu l'idée de cet épisode parce que j'ai suivi l'expérience catching de Geneviève Gauvin que vous avez dû être nombreux à suivre aussi et j'avais fait la première conférence de Julie Fabre et Julia Couder où elles parlaient de marketing de contenu et elles évoquaient cette notion de contenu court et contenu long. C'était une conférence sur le marketing de contenu et je trouvais que c'était une donnée hyper intéressante qui, quand on fait des réseaux sociaux, c'est un sujet qui revient parce que ça aborde vraiment une stratégie de contenu plus large. Et il s'avère que dans mon réseau professionnel, j'ai quelqu'un qui est assez spécialiste sur la question, qui est Clément Lepleu, qui est avec moi aujourd'hui. Et voilà, je lui ai proposé de faire cet épisode avec moi, il a accepté, c'est très sympa. Et on va parler aujourd'hui justement du contenu court et du contenu long, parce qu'on en entend beaucoup parler. Mais finalement, j'avais envie de faire cet épisode pour l'évoquer un peu plus largement et un peu plus profondément. Et voir quels enjeux il y avait avec les réseaux sociaux et puis aujourd'hui comment on peut organiser sa stratégie de contenu pour faire ce mix ou en tout cas on va l'aborder avec Clément lui comment il fait puisqu'il est comment on dit d'ailleurs brand content stratégiste, c'est ça Clément?
Bonjour Axel, au final le terme est un peu pompeux de brand content stratégiste et surtout que je suis passé comme brand content stratégiste et aujourd'hui je suis content manager. J'ai envie de dire que ça dépend des agences. Moi, je dis que je suis responsable de stratégie de contenu. Ça permet d'éviter, encore une fois, ces anglicismes qui n'ont pas beaucoup d'intérêt.
Très bien. Est-ce que tu veux te présenter un peu plus largement que ce que je l'ai fait? Parce que j'ai juste dit que tu étais effectivement sur la stratégie de contenu, mais peut-être que tu peux te présenter un peu plus clairement.
Oui, je vais faire ça rapidement. Au final, je suis un pur produit d'agence et d'agence social média. Ça fait maintenant 7-8 ans... Que je navigue autour du contenu, avant en tant que social media manager, et puis même avant en tant que community manager, hein, où j'étais quand même chez l'annonceur, notamment chez Opodo, GoVoyage, où c'était l'époque où on avait cette capacité à être des community managers, où on publiait tout pour faire de l'engagement, et les choses ont bien changé. Aujourd'hui, je suis en agence chez The Links, une agence nantaise, une agence de communication, donc conseil et stratégie. Et il se trouve que je fais partie du pôle contenu où on accompagne différentes marques à mettre en place, que cela soit des stratégies de contenu, on va dire, au global ou accompagner à la mise en place de Content Factory. Mais aussi de déplacement, on va dire aussi de diffusion, donc tout ce qui est mis en place de médiatisation de ces stratégies.
Mais ça me paraît très clair et donc vous aurez tous compris l'intérêt de faire intervenir Clément aujourd'hui. Et puis je trouvais que c'était intéressant parce que toi tu as vraiment une approche avec des gros comptes, parce qu'aujourd'hui toi tu travailles avec des clients qui sont plutôt gros, et puis moi de pouvoir témoigner en parallèle de ma petite expérience avec mon expérience de freelance qui est quand même amenée à faire de la stratégie de contenu pour ma propre visibilité. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant d'avoir les deux points de vue. Et du coup, je te propose de démarrer directement par le vif du sujet. Alors c'est rigolo parce qu'en préparant l'épisode, j'ai envoyé un plan à Clément. Et sur la première partie, je trouvais ça intéressant de simplement essayer de définir ce qu'on appelle contenu long et contenu court. Et je lui ai dit, c'est un peu comme snack content et slow content. Et direct, je me suis fait engueuler. Il m'a dit, non, c'est pas du tout ça. Et j'ai trouvé que la manière de... Quand tu m'as répondu et tu m'as expliqué pourquoi, j'ai trouvé ça très intéressant. Et je te propose d'expliquer justement pourquoi toi, tu parles pas trop de snack content et de slow content, mais plutôt de contenu court et de contenu long.
Au final... comme je viens de le dire, là, je suis pas fan des anglicismes et des buzzwords, mais pour cela, ça a vraiment, enfin, quand on parle de snack content et slow content, c'est vraiment, on va dire, un raccourci qui est souvent fait en matière de contenu. Et même si, dans les faits, ça a pas une grande importance, mais autant dire les bonnes choses pour les indiquer comme il faut.
Tout à fait d'accord.
et donc, si on reprend notamment l'approche du slow content, c'est avant tout une démarche. Je veux dire par là, généralement, ça part notamment d'une base de ce qu'on appelle le slow journalisme. Et si on regarde un contenu slow, c'est un contenu responsable qui se base sur trois piliers qui se dit utile, durable, raisonné. Là où le snack content, c'est là, ça va vraiment être une typologie de contenu. On va plus sur des formats courts, impactants, viraux, donc facilement en réseaux sociaux, tout simplement. Et donc, c'est difficile d'opposer un format d'une démarche parce que un snack content pourrait avoir une démarche slow content quand on y pense. C'est pour ça que j'ai toujours tendance à enlever cette couche de snack et de slow et de dire on a des contenus courts, on a des contenus longs. Maintenant, ça va être de savoir pourquoi on l'utilise, quand et comment, tout simplement.
Et c'est marrant parce qu'on m'a fait la réflexion de contenu court, contenu long. Certains pensaient que c'était par exemple sur les réseaux sociaux, quand on fait des textes par rapport à ce qu'on publie, des textes longs ou des textes courts. En fait, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment, est-ce que tu peux nous donner par exemple des exemples de contenu court et des exemples de contenu long?
Oui, c'est vrai que c'est toujours problématique ce fameux texte de poste là. On a toujours du mal à le définir. Il y en a qui parlent d'accroche, de statut, je ne sais quoi. Et au final, là, on parle vraiment du contenu en lui-même. Aujourd'hui, l'apogée des contenus courts, ça va être les Reels, TikTok, Shorts. Maintenant, on peut les appeler de plein de différentes manières en fonction des plateformes. Même les vidéos à la brute ou les articles courts. Articles courts, donc on va se limiter à 500 mots. Dès qu'on dépasse peut-être les 2000 mots, on va commencer à évoquer un contenu long. Sur les vidéos, pareil, au final, tout ça, ce sont des normes, en fait, aussi implémentées par les différentes plateformes. Hein, nos amis GAFAM ont tous des normes qui vont insinuer un objectif différent. On va y revenir plusieurs fois, hein. Clairement, ça va être les objectifs et vos cibles qui vont définir en fait la typologie et la durée de votre contenu. Mais clairement, que ce soit des vidéos, des podcasts comme celui-ci, ça reste du bon sens. Au final, un format court va être plus court en termes de mots, de minutes ou de durée, je sais pas comment le dire. Là où un format long va tout simplement nécessiter plus de temps.
Mais on est d'accord que par exemple un post Instagram, c'est plus ou moins toujours un contenu court, quand bien même le texte est très long.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Au final, ça va être plus dans la consommation du contenu et dans qui va nécessiter un temps, en fait, pour l'assimiler, pour tout simplement le lire ou le regarder. C'est là où on va être dans un contenu long.
Moi, ce que j'aime bien rappeler aussi, c'est que en fait, quand on parle de contenu long, il y a vraiment aussi cette idée d'enjeu derrière pourquoi on fait un contenu court et pourquoi on fait un contenu long. Parce qu'en fait, finalement, c'est un peu ça le point de départ. C'est quand est-ce qu'on doit définir si on doit faire un contenu court ou un contenu long, c'est ce qu'on veut en faire, finalement.
Ah, totalement. Mais ça, c'est toute la guerre entre guillemets avec nos clients où on a souvent une volonté de faire un podcast. Je reprends cet exemple-là, étant donné qu'on est en cours de production. On a beaucoup de volonté autour de ce format tendance, sans toujours savoir pourquoi. Et la magie du contenu, elle fonctionne quand on a un objectif, quand on a clairement une volonté de savoir qui l'on touche et pourquoi. Et lorsque l'on s'implique dans ce fonctionnement-là, il est toujours plus utile et déterminant de savoir pourquoi on fait un contenu et dans quel objectif. Et ce qui va déterminer en fait la typologie de contenu et après la durée et éventuellement même la DA peut-être en fonction de ce qu'on va rechercher à faire.
Parce que tu vois, c'est intéressant l'exemple du podcast, parce que je me dis finalement, c'est censé être un contenu long, entre guillemets, et pour autant, en termes de durabilité, la difficulté, c'est qu'il dure dans le temps, mais par exemple, toute la partie référencement, si on n'enrichit pas le podcast, par exemple, la durabilité, elle est particulière à étudier, puisqu'on ne peut pas mettre de mots-clés aujourd'hui, sur un podcast.
Tout à fait, mais malgré tout, en termes de format audio, tu peux faire un podcast court de 3 minutes et qui va être utilisé pour capter l'attention. ou un format beaucoup plus long, où là, tu vas être là plus dans un travail de storytelling ou un travail de notoriété, où tu vas travailler en fait ta fidélisation auprès de tes différents auditeurs de toute autre manière. En fait, ça va être plus ton objectif en fait de ton format audio qui va déterminer si c'est un format long ou un format court. Là, actuellement, regardons, ça fait 5 minutes qu'on parle, on va sûrement parler encore pendant 40 minutes, ça va être un format long. Et pour qu'il soit intéressant, quand tu parles de référencement, tu auras l'obligation de le retranscrire. Et là, ton format long aura un nouvel impact dans ta stratégie de contenu. Et en fait, il faut plus positionner tes différents contenus dans ton parcours client. Si on prend ce podcast, typiquement, il va avoir plusieurs objectifs, mais le premier va avoir, je pense en tout cas, vu comment tu le positionnes, de valoriser ton expertise autour notamment du social media et de valoriser peut-être justement cette approche contenu qui prend plus en plus de place dans le social media. Et donc là, pour valoriser une expertise, on est souvent dans l'obligation d'aller chercher des contenus qui vont mettre en avant tes compétences. Et donc, ça prend du temps. Donc, on passe généralement par un podcast ou un article long. Mais pour mettre en avant cette compétence, il faut capter l'attention. Donc, pourquoi pas faire des extraits de ce podcast via des petites, on appelle ça clip audio en général, dans mon agence, ouais, des petites capsules, voilà, qui permettent de mettre en avant l'extrait assez fort, impactant, issu de ce format long pour en faire un format court. Et ça va être pour capter l'attention. Mais on pourrait imaginer derrière ce podcast une campagne de comment créer une stratégie de contenu en tant que freelance par Axel Marot via un livre blanc derrière qui permettrait aussi de convertir. Donc je veux dire par là, et un livre blanc est bien évidemment un contenu long en fonction de l'objectif que tu vas vouloir mettre en place dans ta stratégie globale, tu vas avoir des volontés différentes mais aussi des formats différents.
Et derrière cette question effectivement de format et puis de démarche, enfin d'objectif, je sais pas comment on peut le dire, mais il y a aussi, tu me disais qu'il y avait aussi un enjeu de production, et c'est vrai que c'est plus ou moins sous-entendu, mais c'est bien de le rappeler que finalement, tous les contenus sont loin d'être égaux en termes de production et qu'il faut bien le prendre en compte pour pouvoir les créer correctement.
Totalement. Au final, on a tendance à voir la stratégie de contenu comme une fin en soi presque, ou un objectif. Ah là là, c'est fou comme Netflix fait une belle stratégie de contenu. Moi, je trouve qu'au final, c'est assez réducteur parce que une stratégie de contenu va aussi avoir des incidences beaucoup moins visibles, mais notamment dans la capacité à produire et à produire correctement, c'est-à-dire à produire à moindre coût, que ce soit financier ou humain. Et plus on anticipe les choses, plus on a cette capacité à savoir que ce format long va te permettre de décliner des formats courts, va te permettre de remplir tous tes besoins dans ton parcours client, plus ta stratégie de contenu soit pertinente en fait. Donc c'est là où effectivement un des enjeux en termes de production, il est énorme en fait en matière de stratégie de contenu, c'est qu'il permet simplement de réduire les coûts. Et aujourd'hui, tout annonceur a un intérêt à mettre ça en place pour cela.
En fait, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est cette espèce, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, c'est cette espèce de pragmatisme qui est liée, je trouve, à la stratégie de contenu, où si c'est bien fait, en fait, ça peut aussi carrément te faire gagner du temps, parce que c'est une sorte de recyclage et d'optimisation des contenus, dont on entend finalement pas mal parlé quand on est freelance, en tout cas, parce que c'est vraiment quelque chose qui revient. Mais c'est pas toujours évident de savoir par où commencer. Et je trouve qu'en fait, quand on le regarde depuis l'angle de, effectivement, contenu court et contenu long, tout d'un coup, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez évident. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est un peu du bon sens. Finalement, quand on fait un contenu long, ça va nous prendre du temps. Donc, on a intérêt de l'optimiser parce que sinon, de toute façon, on pourrait pas faire un podcast par jour, quoi. Donc, il va falloir à un moment trouver un système pour que le podcast, il soit durable et il soit, un peu recyclable, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce que tu as des exemples, justement, où tu as pu mettre en place des contenus longs, que tu as pu vraiment un peu... Il y a vraiment cette idée d'essorer le contenu pour en faire beaucoup de contenus courts.
Alors, c'est amusant, là, actuellement, donc j'ai mon responsable, Sébastien Marteau, que je salue, j'espère qu'il écoutera ce podcast. Il travaille sur une approche de notre stratégie propre donc à l'agence The Links, qu'il appelle la stratégie du pot-au-feu. ou même si je lui dis que c'est pas très vendeur comme plat, mais il dit c'est fou avec un pot-au-feu. Moi, quand je fais un pot-au-feu, je peux derrière avec le bouillon faire un ramen. Je peux derrière faire les restes que j'ai, j'en fais des boulettes de viande pour mes enfants et ainsi de suite. Et il dit j'ai pensé à ça avec différents clients. Il se trouve que par exemple sur un de nos clients, on a mis en place un live il y a quelques années où ce live était une capacité à demander aux utilisateurs un FAQ géant. Et évidemment, un live d'une heure, on ne peut pas répondre à tout. Et toutes les questions qui n'ont pas été répondues, on en a fait un format social media où on posait la question et on donnait la réponse par la suite. Et ce fonctionnement-là, on l'applique un peu à tous nos clients, notamment dans le cadre d'un podcast aussi, là, un podcast d'experts avec un témoignage pur et dur, où quand on a mis en place ce podcast, on a tout de suite pensé à... on avait aussi un besoin d'acquisition derrière. Et un podcast, ce n'est pas forcément dans l'objectif d'acquisition. Et donc, on avait un livre blanc à créer. Et le livre blanc avec, bien évidemment, enregistrement de data et donc, après, recherche de conversion, on s'est dit que tous les différents experts qu'on allait avoir dans le podcast, on allait les intégrer, en fait, dans le livre blanc pour l'enrichir. Donc, et donner envie de le télécharger. Et donc là, j'ai plein d'exemples comme ça où maintenant, dès qu'on pense contenu, on anticipe les différentes manières de le décliner en fonction des objectifs que nos clients demandent. Et généralement, nos clients demandent tout le temps de la conversion. Donc, on a toujours besoin d'un peu de noto et un peu de conversion.
Donc, l'idée, si je reprends ce que tu as dit, c'est qu'au final, vous avez fait un live un peu FAQ où vous avez récolté plein de questions. Et avec le live, vous avez répondu, je ne sais pas, à 20% des questions, par exemple. Ouais. Et les 80 autres questions, vous en avez fait des petits formats sur les réseaux sociaux pour répondre à ces questions-là. Et après, c'est l'après que j'ai moins suivi.
Les petits formats, au final, en question, il y avait deux formats. En fait, il y avait des formats motion qui nous permettaient de vraiment souligner un besoin de réponse et qui nous permettaient juste d'agrémenter en fait, le format le Facebook en question du client.
Ouais.
Mais il y avait aussi des posts tout simplement où on appelait ça les coulisses, donc ce qui permettait en fait de donner une question, la réponse en dessous, et on avait un post en fait qui donnait de la continuité en fait à ce fameux live. Je sais pas si je réponds vraiment à ta question là.
C'était par rapport au podcast après. Le podcast, il s'imbriquait là-dedans ou c'était à part?
Non, pardon, c'était deux clients différents. J'ai peut-être été un peu vite. C'était plus pour montrer.
J'ai cru que c'était le même, ouais. Je me suis dit, j'ai loupé quelque chose.
Non, ça, c'est ma capacité à aller un peu vite. Non, c'était un exemple parmi d'autres.
L'autre exemple, c'était par rapport à un podcast.
Tout à fait. On avait, on avait six épisodes d'experts. C'était pour de la finance. Je ne sais pas citer le client, mais. Et clairement, c'était un podcast de 45 minutes où tout de suite, quand on s'est dit ce podcast, c'est un beau produit, notamment pour créer de la notoriété auprès de notre client. Là. Mais on s'est dit, on a ce livre blanc à faire. On va récupérer les éléments évoqués dans ce podcast pour les intégrer à ce livre blanc. Et ces fameux livres blancs, on les a mis en avant aussi, bien évidemment, avec des citations d'experts sur des campagnes d'ads sur LinkedIn. Ce qui fait que, je veux dire, par là, le podcast nous a permis, en un contenu, de créer un autre et créer nos campagnes de conversion derrière. Et c'est comme ça, au final, qu'on a aussi convaincu le client de faire un podcast, parce que c'est pas toujours évident de convaincre des clients, même si c'est très tendance actuellement, mais d'avoir une approche juste noto et juste expertise avec des contenus très lourds, on va dire, en termes de production à faire, sans avoir une approche qui va permettre de surcycler. Tu parlais de recyclage tout à l'heure, on est presque dans du surcyclage, d'aller vraiment utiliser jusqu'à l'os, en fait, ton contenu de base.
Ouais. Et ça, par contre, en termes de production, ça veut dire que vous avez fait le podcast normalement, mais après, vous avez réutilisé le contenu. C'est pas comme si vous aviez fait l'épisode et par exemple, à la fin de l'épisode, tu es avec ton expert et tu dis « Bon, bah là, on a fini l'épisode. Par contre, j'aurais besoin aussi de cet autre contenu pour un autre format. » Non, vous êtes parti sur le même format que vous avez vraiment essoré, quoi.
Tout à fait. Au final, c'est rare, par contre, qu'on pense vraiment format court à part du format long. Là, je pense social media notamment par rapport à d'autres clients où on travaille notamment sur des extensions, des pergolas où là on va avoir des shootings produits. Par contre, dans ce cadre-là, un shooting produit, ça va être vraiment de la communication, on va dire, qui s'éloigne du contenu éditorial. Donc, on va être plus sur un shooting qui va avoir une dimension très commerciale. Et là, potentiellement, on peut mettre en place, toi-même, tu sais, hein, clairement, une approche un peu plus social media avec des contenus de présentation produit. Mais attention, moi, quand je parle contenu, on est toujours sur une approche très édito. C'est-à-dire qu'on s'éloigne d'une volonté de promotion. Et c'est là où, quand on pense podcast, qui est un contenu édito par excellence, on va avoir une démarche vraiment de réutiliser ce contenu qui sont des mines d'or, en fait, tout simplement. Là, tout ce qu'on est en train de te dire, ça pourrait faire un très bon article, par exemple, par la suite, ce que tu feras sûrement.
Bah, je vais l'essorer, hein. Je vais essorer voilà, cet épisode.
Exactement. Et c'est tout l'intérêt sur lequel on anticipe et quand on pense contenu long, comme un podcast, encore une fois, on va jamais se dire à la fin du podcast, on rajoute des choses. C'est vraiment comment on va réutiliser celui-ci pour en faire quelque chose d'autre et qui va répondre encore une fois à des objectifs clairs.
Mais par contre, vous y pensez dès le départ parce que ça amène, c'est une belle transition pour la prochaine question. Parce qu'effectivement, je t'avais posé la question de qu'est-ce qu'une bonne stratégie de contenu, même si c'était une vraie question putassière qui voulait juste simplement dire c'est un peu comme une stratégie social média, il n'y a pas de recette magique, il faut simplement revenir, comme très souvent dans la communication, à la stratégie globale et aux objectifs et aux attentes du contenu en fait. Et c'est ce que tu me confirmais.
Ouais, tout à fait. Malheureusement, si j'avais une capacité à réutiliser les stratégies de contenu pour tous mes clients, je pense que je serais riche et j'aurais beaucoup moins de travail. Malheureusement, évidemment, ça s'applique en fonction du positionnement éditorial et des parcours spécifiques de chaque client, des différents annonceurs que j'accompagne. On va dire qu'il y a des étapes pour mettre en place des stratégies de contenu. Mais comme toute stratégie de contenu et stratégie social média, maintenant, il n'y a pas de formule magique, clairement.
Mais par contre, en termes d'étapes, il y a un vrai process pour mettre en place une stratégie de contenu.
Ouais, oui. Et justement, tiens, on parle de social média et ça, il y a un biais aujourd'hui qui m'agace un peu, hein, malgré tout. On est beaucoup contacté par des annonceurs qui veulent des stratégies social média. Et clairement, c'est très difficile de les faire remonter en disant qu'aujourd'hui, le social media, c'est des diffuseurs. C'est un diffuseur, c'est des canaux qui partagent du contenu. Et pour moi, commencer une stratégie de contenu en passant par le social media, enfin en partant du social media, c'est commencer par la fin. Et ça, c'est très difficile à faire comprendre. Quand on parle, moi, je veux être présent sur Facebook, moi, je veux être présent sur Instagram, comment on fait ? Eh ben, faut du contenu. Et donc, comment on fait du contenu? Eh ben, déjà, on va peut-être essayer de savoir qui vous êtes. Il va falloir réfléchir à votre brief. Et ça, je pense que toi aussi, tu dois rencontrer cette problématique, que ce soit des petits ou gros annonceurs. On a toujours cette difficulté à définir pourquoi ils veulent aller sur les réseaux sociaux. Et donc, faut remonter à la problématique, aux objectifs, aux cibles et à qui est la marque, tout simplement.
Bah en fait, c'est souvent, je parle de maturité social média, mais je pense que on pourrait dire, je pense que ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire cette idée de savoir effectivement ce qu'on veut défendre et simplement avoir une plateforme de marque. Mais on a l'impression que c'est un gros mot aujourd'hui, mais je suis toujours un peu effarée de voir que même des grosses structures. Alors, je trouve qu'il y a un peu deux courants sur pourquoi on n'a pas de plateforme de marque. Soit on est très, 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 très gros et en fait, on a tellement de choses à gérer que finalement, on a du mal à synthétiser et à se dire on va tous dans la même direction. Parce qu'il y a trop de gens, il y a trop de parties prenantes, trop de décisionnaires. Et du coup, c'est un peu le bazar, en clair. Soit on est trop petit et on s'est d'abord focus à mort sur le produit, mais pas sur le storytelling, ce qu'on veut défendre, voilà. Et du coup, mais le social media comme la stratégie de contenu, enfin, de toute façon, tu l'as bien rappelé, hein. En fait, pour moi, le social media, c'est un pan de la stratégie de contenu, mais ça reste un pan, ça ne veut pas dire que c'est pas, pour moi, ça ne vient pas nourrir la stratégie de contenu, parce qu'il y a certainement des opportunités de thématiques, et on peut, à mon sens, beaucoup apprendre des réseaux sociaux sur quels sont les contenus à développer, mais encore une fois, effectivement, il faut qu'il y ait des contenus qui soient développés Enfin, faut prendre de la hauteur en fait sur les réseaux sociaux pour avoir une résonance qui soit beaucoup plus grande. Et ça, typiquement en tant que freelance, par exemple, ça je l'ai vraiment remarqué dans le sens où, au début, je me suis dit ah là là, faut que j'ai un compte Instagram. Je travaille sur Instagram, il faut absolument que je sois visible dessus. Voilà, c'était un peu le point d'entrée. Et en fait, j'ai pris beaucoup de recul là-dessus. Et quand je me suis dit, mais non, en fait, il y a un podcast, il y a d'autres choses. Moi, dans la stratégie que je veux mettre en place, Instagram, ça n'est qu'un pan. Et finalement, ce n'est pas là du tout où je mets le plus mon énergie. Parce que par rapport à la stratégie que je veux développer, finalement, Instagram, c'est pas aujourd'hui l'outil majeur. Ou en tout cas, il va relayer effectivement mon podcast ou d'autres choses que je fais. Par exemple, j'ai fait un template Notion il n'y a pas longtemps. Ça, typiquement, c'est un truc extérieur aux réseaux sociaux et que j'ai relayé sur les réseaux sociaux. Mais finalement, effectivement, je trouve qu'il faut apprendre à prendre de la hauteur et puis toujours à revenir au début, à l'origine. C'est quelle est ma plateforme de marque, quel est mon objectif, qu'est-ce que je veux faire. Et je trouve que voilà, le fait que la stratégie de contenu se développe, que les réseaux sociaux se développent, ça vient juste mettre un coup de projecteur sur ça. Là où il y a encore quelques années, finalement, on pouvait encore s'en sortir sans trop en avoir. Et je trouve que maintenant, ça commence à être vraiment plus possible, quoi.
Bah, tout à fait. En fait, quand même, quand on rebase, si on retravaille un peu qu'est-ce que c'est une stratégie de contenu ? L'objectif numéro un d'une stratégie de contenu, c'est une cohérence globale des prises de parole, que ce soit du site internet, de la newsletter, des réseaux sociaux, contenu vidéo, etc., j'en passe. Si vous ne savez pas qui vous êtes, on évoque le terme plateforme de marque depuis tout à l'heure, pareil, hein, clairement, pour travailler avec des gros annonceurs, malgré tout, ça peut être des fois assez aberrant de voir des plateformes de marque de 70 pages ou de 3 pages pour des annonceurs assez comparables. Hein. Donc, même si quand il y en a, c'est pas forcément le miracle. Je veux dire par là que des fois, c'est pas très clair, même en interne, de définir vraiment les valeurs, les missions. Et même si on va faire du contenu, quel bénéfice contenu vous voulez donner à ce que vous allez mettre en avant. Je te rejoins totalement sur ce besoin d'éclaircir un peu qui vous êtes pour pouvoir après réussir justement à le nourrir sur les différents réseaux.
Pardon. En plus, en vrai, je trouve que ce que n'ont pas encore compris les clients, c'est que une fois, enfin certains clients, hein, pas tous, hein, une fois que tu as défini une plateforme de marque claire, mais tu gagnes un temps fou sur plein de choses en fait. Et ça t'aide à prendre des décisions sur plein d'éléments, notamment lié à la communication où aujourd'hui on peut faire plein de choses et parfois on est un peu noyé sous les possibilités, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire entre ce qui est tendance, ce qui n'est pas tendance. En fait, s'il y a une plateforme de marque qui est assez claire, les prises de décision, elles sont hyper rapides, hyper efficaces et je trouve que c'est comme ça qu'on peut aller très vite et très loin.
Pour moi, c'est un outil qui cadre en fait, la plateforme de marque. Et de plus en plus... plus on grossit, en fait, on accompagne un gros client qui met en place une content factory, qui a une plateforme de marque, et qui lui permet de, effectivement, cadrer ces fameuses prises de parole sur les réseaux sociaux, etc. Mais c'est là où c'est assez fou. C'est que ce client a des difficultés à traduire sa plateforme de marque. Je veux dire, par là, il nous a amené à créer ce qu'on appelle un guide d'expression. Et ce guide d'expression va lui permettre, justement, d'avoir de plus de facilité à réussir à communiquer autant sur ses réseaux sociaux. Et en fait, tout simplement, c'est que plus on est gros, plus c'est siloté. Et plus c'est siloté, plus il y a moins de communication sur ce que c'est la plateforme de marque et comment on arrive à communiquer dessus. Et donc, on doit la permettre d'avoir une sorte de décodeur qui va amener à donner justement cette capacité à être cohérent. Et c'est là, encore une fois, quand je reviens à qu'est-ce que c'est une bonne stratégie de contenu, c'est cette capacité à être cohérent partout. Et ça, plus tu grossis, plus c'est difficile. Et effectivement, c'est difficile, surtout quand on ne sait pas qui on est. Et la plateforme de marque, ou en tout cas la définition d'une marque claire, va forcément avoir un impact sur tout le reste. Et malheureusement, ce n'est pas si facile à mettre en place.
C'est sûr. L'objectif, c'est vraiment de l'infuser un petit peu partout. Après, il y a aussi, je trouve qu'il y a un courant aussi de stratégie de contenu pour tester des micro-marchés. Et je trouve que la stratégie de contenu, elle peut vraiment permettre de faire ça. Enfin, pas forcément des micro-marchés, mais par exemple, On échangeait sur est-ce qu'on connaît un bon exemple de stratégie de contenu hyper populaire, et je citais à Clément la stratégie de contenu de Sex Education de Netflix. Donc bon, évidemment, on revient pas sur Netflix, les moyens humains et financiers et tout ça, qui sont juste énormes, évidemment, mais là, on n'est pas sur une... Enfin, si, on est sur une stratégie de contenu globale de Netflix, mais on est quand même sur un truc hyper particulier. Et je trouve que, voilà, ça, c'est un vrai exemple, je trouve, de stratégie de contenu hyper claire et bien foutue, parce que hyper cadrée, hyper cohérente, quoi.
Ouais, mais t'as raison, au final, c'est même pas la stratégie de contenu de Netflix, c'est la stratégie de contenu de la série. Et c'est là où Netflix est impressionnant, c'est qu'ils ont certes une stratégie de contenu pour la marque, et avec une plateforme de marque très claire, et ils la décorrèlent de leur stratégie de chaque série.
Ouais.
J'imagine que je sais pas les dernières séries qui fonctionnent là, mais je crois qu'eux, ils avaient fait un livre blanc, c'est ça? Enfin, ils avaient fait un guide.
Alors, de mémoire, et je voulais regarder avant d'enregistrer, ce que je n'ai pas fait, c'est mal. De mémoire, ils avaient fait un guide. Stop, c'est la Axel du montage. J'assume pas du tout les approximations qui allaient suivre sur le dispositif qu'avait fait Netflix, donc je me suis re-renseignée. En fait, je parle de la promotion qui avait été faite de la saison 2 de Sex Education, où en fait ils avaient sorti le petit manuel d'éducation sexuelle en collaboration avec Charlotte Abramov, qui est une photographe et une réalisatrice belge, qui est connue sur ces sujets autour de la sexualité, pour avoir un discours beaucoup plus décomplexé et beaucoup plus, comment dire, cru, on va dire, mais dans le bon sens du terme. Et en fait, donc, ils avaient créé un manuel de 64 pages qui parle de sexualité et sans tabou, et à destination plutôt des jeunes, donc c'était à partir de 16 ans, et où ils évoquent ensemble des notions de consentement, par exemple, les différentes sexualités qui existent. Il y avait aussi des représentations de sexe féminin et masculin pour voir qu'effectivement, il y a plusieurs typologies de sexe et qu'effectivement, il ne faut pas se créer des complexes. Donc, et c'était un petit manuel qui était recevable, donc un petit manuel papier qui était recevable gratuitement chez soi, et je trouvais que le dispositif était vraiment super. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on peut le retrouver sur le site de Netflix, consultable en PDF. Voilà, je reprends la suite de l'épisode.
Et c'est vrai que je trouvais que c'était une stratégie de contenu qui allait très loin, et puis en plus, qui avait la capacité d'avoir à la fois du digital et à la fois du physique, ce qui est encore en plus un step au-dessus, et qui était... bien, parce que cette série se veut effectivement assez pédagogique, et du coup ils tiraient le fil là où ils ont fait des stratégies commerciales du type faire du branding avec des marques de fringues pour des licences, qui sont des trucs un peu classico-classique et très commercial. Et justement avec Sex Education, et ils ont vraiment testé une nouvelle stratégie qui collait super bien aussi avec la série, quoi. C'était ça, ouais, la force du truc.
Je l'aurais pas dit autrement. C'est ce qui était très fort, je trouve, qu'ils ont tiré le fil jusqu'au bout, mais de l'expérience que véhicule justement cette série.
Ouais.
Et c'est là où ils sont vraiment interrogés sur quelle est l'expérience que la série procure aux consommateurs. Aux spectateurs. Et clairement, c'est là où quand tu te positionnes vraiment, tu vois la posture que le spectateur a, et que tu arrives à aller au-delà de la série, à aller au-delà du produit donc que tu mets en avant, et d'alimenter encore une fois cette expérience, et de réussir à, là comme tu le disais, en plus à l'amener sur du print, c'est super bien joué. Enfin, il y a aucun enfin, il n'y a plus qu'à les applaudir, là.
Et bah, exactement. Et enfin, moi, j'ai trouvé ça super brillant aussi. Et surtout, je m'étais dit, ça rejoint l'idée qu'il n'y ait pas de recette miracle, mais qu'il faut vraiment s'adapter à ce qu'on veut dire. Et à même, par exemple, je pense que pour des entreprises, sur des stratégies de contenu, elles peuvent être très différentes suivant s'ils veulent mettre en avant un produit ou l'autre, ou parler à une audience ou à une autre. Une stratégie de contenu pour une audience va peut-être bien fonctionner et remplir ses objectifs, là où une autre va pas forcément hyper bien fonctionner. Je suppose que toi, dans ton travail, c'est aussi ça, c'est de pas dupliquer les stratégies, mais de vraiment les adapter.
Ouais, tout à fait. En final, on est obligé d'avoir une approche un peu état des lieux avant de commencer une stratégie de contenu où on va justement réfléchir bah, aux cibles, mais aussi au parcours de ces cibles. On a, au final, une stratégie de contenu, ça demande, enfin, surtout sur les acteurs avec lesquels on travaille, de travailler peut-être avec un UX designer qui va nous mettre en place justement ces fameux personas et parcours. Quand c'est possible, hein, si on a, je parle à une échelle où on a un certain budget.
Tu travailles chez les riches, Clément.
Mais en tout cas, cet état des lieux va nous permettre effectivement de déterminer un parcours qui est évidemment assez spécifique à chaque annonceur. Et à partir de là aussi, on va travailler donc quel contenu, quel bénéfice contenu va toucher cette cible à un moment donné. Et pour être encore plus spécifique, on va réfléchir donc à un positionnement. Nous, on parle de piliers éditoriaux, un peu comme ce qu'on fait sur les thématiques, les lignes éditoriales social media, mais qu'on va essayer d'amener vraiment à être développé sur tous les formats possibles, donc que ce soit les typologies de contenu du site internet, des réseaux sociaux, mais aussi éventuellement du print. Donc ça amène forcément des grosses différences, on va dire, à la fin. À la diffusion. Et si il y a une chose qu'on pourrait évoquer aussi aujourd'hui, quand on parle de réseaux sociaux, aujourd'hui on parle beaucoup de contenu, mais un contenu non médiatisé a peu de chances d'être vu. Et c'est là aussi où aujourd'hui on intègre, on va dire, une troisième étape, voire quatrième étape avec un accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie. Ça va être toute l'approche diffusion et médiatisation qui devient de plus en plus essentielle. Et ce qui n'est pas toujours facile à convaincre chez les annonceurs, ou ce qui est assez aberrant quand on produit du contenu, c'est de ne pas vouloir forcément le médiatiser pour qu'il soit visible, parce que généralement c'est quasiment 50-50, tu as un coût de production qui est égal quasiment au coût de médiatisation.
Alors ça, c'est marrant parce que j'entends vraiment deux versions, ouais, sur cette partie-là. Vraiment le fait que justement la création de contenu à ce mythe de pouvoir éviter, en tout cas dans le monde du freelance par exemple, c'est vraiment ce qui est défendu, c'est de dire ok, tu vas mettre les moyens pour produire ton contenu, mais ça va t'éviter par exemple de faire toute la partie démarchage ou finalement c'est des choses qui vont t'amener en organique. Bon, je le fais très très simplifié, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je trouve que c'est souvent la promesse qu'on ressort de la stratégie de contenu, c'est que si elle est bien, comment dire, renseignée en amont, logiquement, elle doit fonctionner plutôt pas mal déjà en organique, même si je pense que dans ton cas, on est quand même sur des échelles qui sont plus grandes, et auquel cas, c'est vrai que quand la production de contenu, elle est très grosse, ne pas la médiatiser, c'est quand même un petit risque, quoi.
Totalement.
Je trouve qu'il y a vraiment deux courants là-dessus, sur le fait que voilà, une bonne marque, une bonne stratégie, des fois, ça peut permettre, en tout cas, de peut-être moins investir.
Tout à fait. En tout cas, il y a une réalité, c'est qu'une stratégie de contenu permet d'anticiper les coûts de production et donc aussi de réduire ses coûts et son temps d'investissement de manière drastique en ayant une approche stratégique, justement, en pensant, se dire, tiens, je dois aller sur ces trois canaux, Facebook, Insta et mon site internet. Je réfléchis à quel contenu je peux mettre sur ces réseaux et comment je l'intègre à mon site, et ainsi de suite, ou inversement, ce qui fait que déjà, en termes de production, généralement, on arrive à faire des économies. Maintenant, je commence à être persuadé, après c'est une conviction personnelle, qu'aujourd'hui, arriver sur autant... Moi, je travaille beaucoup avec des clients B2B, donc un réseau comme LinkedIn devient mon meilleur ami. C'est très ironique. Mais clairement, un réseau comme LinkedIn, qui est assez cher en termes de médiatisation, beaucoup d'annonceurs sont frileux de mettre un budget dessus. Moi, je recommande toujours un post par semaine sponsorisé, si ce n'est que du... Et quand je dis sponsorisé, c'est pour simplifier, on va dire médiatiser. Pour justement, effectivement, comme tu le dis, c'est des contenus, généralement, ça va être des vidéos témoignages, ça va être des extraits de podcasts, mais qui mérite, au vu de la production, de la visibilité. Je pense qu'on n'a pas le même discours quand on fait de la photo shooting produit sur Instagram, par exemple. Là, nous, on est sur une volonté, surtout en B2B, de mettre en avant des expertises, donc des formats assez longs, qui vont sûrement plus mériter encore de la sponsorisation parce qu'ils sont difficiles d'accès.
Oui.
Donc peut-être qu'effectivement... Ouais. voilà, je pense qu'en fonction de qui tu accompagnes, forcément, la médiation n'est pas forcément obligatoire pour tout. Heureusement, encore, même si c'est compliqué à dire, des publications sur Facebook, allez, sur Instagram surtout, et peut-être encore plus sur TikTok, vont engager organiquement. Ça existe encore.
Mais c'est vrai qu'on entend effectivement souvent ces deux courants-là, donc c'est pour ça que je me permettais d'ajouter ça. Et la dernière partie que je voudrais juste aborder sur ce podcast, c'est la partie évaluation des stratégies de contenu. Du coup, comme on diffuse sur différentes plateformes, toi, c'est quoi ton approche d'évaluation de la stratégie de contenu après l'avoir mis en place finalement ?
C'est la question piège, ça. Au final, c'est assez similaire à une stratégie social media, hein, mais étant donné qu'on va analyser les KPI de base sur les différents canaux, ouais. On va avoir bien évidemment des KPI très quantitatifs dans un premier temps, avec la portée, le taux de rebond ou aussi qualitatif pardon, avec les taux d'interaction et les taux d'engagement. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est la perception en interne. Vu que je travaille souvent pour des assurances et des mutuelles, il y a toujours un aspect très politique dans ces clients-là. Ce qui fait que les premières personnes à convaincre, c'est les réseaux. Et au final, on a toujours, certes, des KPI qui doivent être positifs, hein, je ne dis pas le contraire, mais vu qu'on est souvent sur de l'accompagnement, sur nouvelles offres, des accompagnements sur des nouveaux marchés, quand on arrive à convaincre l'interne par des stratégies de contenu globales, on a déjà gagné un gros point sur notre retour sur investissement, on va dire. Maintenant, sinon, sur comme tu le disais tout à l'heure, hein, une stratégie de contenu a les mêmes vertus, on va dire, qu'une stratégie social media, mais d'une manière un peu plus haute, ce qui fait que, toujours pareil, hein, il y a des KPI de marketeux de base qui nous permettent de mettre en avant ou des mauvais ou des bons résultats.
Non, parce que la problématique, elle ne doit pas être évidente aussi pour cette question de durabilité, c'est-à-dire que des contenus qui sont durables, ça veut dire où est-ce qu'on arrête de compter, entre guillemets, et puis il y a des choses qui ont certainement des performances plutôt à plusieurs mois, voire plusieurs années, donc c'est difficile d'évaluer.
De fait, c'est là où, c'est pour ça que je dis qu'il y a une première approche qui va être un peu faussée avec l'humain, en fait, notre client va être satisfait du contenu ou pas. Maintenant, clairement, quand on parle de stratégie, on parle du moyen à long terme. Estimer le réussite d'une stratégie sur du court terme, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que nous, on a tendance sur du court terme à parler de tactique, et dès qu'on parle de stratégie, et ça, on évangélise la chose auprès de nos clients, je peux te le dire, pour vraiment qu'ils comprennent que la stratégie ne fonctionnera pas du jour au lendemain et que c'est un travail de fond. C'est vraiment un travail de fond. Mais comme une stratégie social média, hein, on peut voir de l'engagement et des posts qui fonctionnent, mais s'ils fonctionnent que sur une semaine, deux mois, ça peut être vite décevant. Donc au final, l'idée étant de réussir justement à obtenir ces fameux objectifs, enfin à atteindre ces fameux objectifs sur le long terme.
Bah, c'est pour ça que je posais la question, parce que des fois, c'est déjà difficile de faire comprendre aux clients qu'une éditoriale, ça met un petit peu de temps à s'installer, à ce que les gens comprennent bien ce qu'on veut mettre en place. Et des fois, bah, ça prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors, une stratégie de contenu, en sachant que nous, on travaille sur des contenus qui sont quand même très courts en termes de durabilité. Donc, je me dis que sur une stratégie de contenu où il y a des choses qui mettent beaucoup plus de temps à s'installer, ça ne doit pas être évident de fournir une évaluation à un client.
Bah, y a, malgré tout, une stratégie de contenu a toujours une volonté, enfin un besoin d'être diffusée. Donc, typiquement, la newsletter, qui, si on ne compare pas les social médias, nous permet aussi d'avoir un rapport au contenu intéressant, étant donné que, certes, ça génère du clic, mais après, on peut aussi voir si on capte et si on garde longtemps, en fait, les personnes sur le site à travers ces fameux articles, mais si c'est des vidéos aussi, le temps de rétention, en fait, ouais. Le taux de rétention va être intéressant à regarder. Donc, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte qui vont vite nous rassurer ou nous faire peur.
Non, mais en fait, il y a vraiment un enjeu de sélectionner les bons KPI, parce que t'en as plein, en fait. Mais il faut revenir encore une fois à l'objectif, quoi. C'est toujours pareil.
Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'une stratégie de contenu, ça reste évolutif. Certes, on regarde au fur et à mesure les résultats. Bien évidemment, si on voit qu'on touche pas la cible comme il faut, si on voit que le contenu ne convainc pas, il faut savoir se remettre en question aussi, et pas dès le premier. C'est là tout l'intérêt, en fait. C'est là où il faut réfléchir à trouver la cause et accepter aussi de peut-être changer légèrement d'angle, mais pas de tout remettre en question du jour au lendemain.
Mais franchement, ton parcours pro, il est assez révélateur, je trouve, de l'évolution finalement du social media et du contenu. Je trouve qu'aujourd'hui, les problématiques de la stratégie de contenu sont en fait les problématiques qu'on a déjà rencontrées finalement dans les réseaux sociaux, qui ont juste pris un peu de hauteur, et parce qu'on a arrêté de travailler les réseaux sociaux que dans notre coin pour les faire entrer dans une stratégie plus globale de communication et d'enfin prendre... Enfin, moi, c'est l'analyse que j'en fais, mais pour moi, ça y est, on a compris que les réseaux sociaux, c'était intéressant et qu'il fallait arrêter de les traiter différemment, mais plutôt de les intégrer dans un écosystème qui soit performant. Et finalement, ce que tu dis là, c'est des problématiques que quand on a travaillé dans le social media, c'est des problématiques qu'on a déjà rencontrées il y a quelques années et qui se retrouvent maintenant au cœur des stratégies de contenu.
Ah bah, c'est tout simplement la manière dont j'ai voulu faire évoluer ma carrière, parce que moi, j'en pouvais plus en tant que social media manager de devoir faire des plannings sans contenu. Ça, c'était quelque chose que je ne comprenais pas de la part de mes clients à l'époque, de dire allez, on veut 3 publications par semaine, il faut 3 publications par semaine comme vous nous l'avez recommandé, faites-le. Mais si vous ne nous fournissez pas la base et si vous ne savez pas comment faire la base parce que vous ne savez pas qui vous êtes, comment voulez-vous que le social media réponde aux objectifs que vous demandez? Et donc j'ai voulu justement remonter un peu plus haut pour pouvoir être moins frustré et amener justement à être plus performant, en fait. Ce que je garde, mon expertise social media au sein de The Links. Mais justement, j'ai plus ces demandes un peu aberrantes de nombre de publications par semaine à remplir, de planning à remplir, parce que à chaque fois qu'on a un client qui vient vers nous en mode nous on veut une stratégie social media, on fait ah non, vous voulez une stratégie de contenu.
Oui.
Et ça aide pas mal.
Bah ça, c'est vrai que c'est ça revient encore souvent, et même si on peut donner des pistes, parce que je pense que un bon social media manager, il a quand même cette appétence pour le contenu. C'est des problématiques qui reviennent tout le temps. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça déborde tellement de notre cœur de métier que c'est plus notre métier. On devient effectivement brand content stratégiste, même si tu n'aimes pas le mot. Et pour le coup, ben, on sort vraiment de notre périmètre. Alors, ce n'est pas forcément inintéressant, mais il faut savoir ce qu'on veut faire aussi, quoi.
Ouais,
et on ne peut pas tout faire.
Ouais, là, c'est ça, j'allais le dire. La difficulté, c'est qu'à terme, c'est que le social manager ne peut pas tout faire comme à une époque. On demandait au CM d'être chargé de com, photo, graphiste et ainsi de suite. Ça a un peu changé. On a compris à quoi servait un CM. Autant aujourd'hui, un social manager, on lui demande d'être autant le responsable web marketing pour gérer tout ce qui est ads, d'être autant justement le content manager où il doit produire tous les contenus quasiment. Et en plus de gérer le planning et la modération et l'animation. Et c'est là où il faut faire attention à bien, encore une fois, j'utilise le terme évangéliser, mais démocratiser en tout cas ce que c'est le social media aujourd'hui et à quel point il faut s'entourer de différentes compétences. Et à quel point, si vous voulez atteindre des objectifs, il faut investir pour atteindre ces objectifs. Le social media, c'est pas magique. C'est fou à quel point Facebook, etc., nous ont un peu tués à vendre un réseau gratuit et à vendre une capacité à vendre plus grâce aux réseaux sociaux facilement. Je pense que c'est intéressant comme manière de voir les réseaux sociaux, mais c'est assez faux quand même. C'est beaucoup d'investissement.
Alors pour moi, c'est la V2, ça. Parce que j'ai vu, tu as dû voir le poste de, c'est Quentin Horry, je crois, des Minimondes. Ça te parle?
Ah oui, ah ouais, intéressant, ouais. Je l'ai vu.
Je trouve qu'il parle vraiment de ce côté-là, du fait qu'effectivement...
Comment se passait Facebook, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Alors, le titre est un peu putassier, ouais. Parce qu'en fait, quand tu lis, c'est pas vraiment... C'est comment pas mettre tout son argent sur des ads Facebook pour vendre sur son e-commerce, si je réduis. Mm-hmm. Et en fait, je trouve que... Au final, on a perdu le côté très organique, communautaire, qui était un peu la promesse du début de Facebook. Ensuite, est venu les ads et puis on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement des opportunités pour vendre assez rapidement en mode je te sponsorise une fiche produit de mon site e-commerce, ça me ramène sur mon site et ça vend. Oh bah je vais pas trop m'emmerder à faire du contenu expérientiel entre guillemets et trop éditorial parce que finalement juste en faisant pas grand chose je vends. Et les gens se sont engouffrés là-dedans et du coup ont perdu, je trouve, le côté expérience et le côté très organique.
Totalement.
Et finalement, là, on y retourne. On est en train de se rendre compte que finalement, non, c'est pas la bonne solution parce que les gens en ont juste marre et ils veulent revenir à ce côté-là beaucoup plus expérience. Donc, pour moi, on est un peu sur la V3 et la stratégie de contenu et les réseaux sociaux, ils sont là-dedans. C'est que ça y est, on a compris qu'il faut amener des choses à manger, entre guillemets, et puis donner du sens et tout ça. Ça va avec tout ça, quoi.
Ouais, je pense que les gens aussi se méfient plus des réseaux sociaux et maintenant vont justement vers les marques qui utilisent les réseaux sociaux avec peut-être du slow content. On y revient avec une démarche un peu plus éthique, un peu plus raisonnée, un peu plus durable, donc avec des contenus, même social media, qui ont un bénéfice contenu, qui ne sont pas que là
pour vendre.
Ouais, voilà, tout à fait. Et c'est là où...
C'est un peu... Moi, je parle souvent de stratégie de ricochet, c'est-à-dire que plutôt que de vouloir toujours faire... en un coup, c'est-à-dire je mets un truc, je vends, voilà. Ça, c'est, je trouve que c'est un peu un truc un peu old school. Maintenant, vraiment, l'idée, c'est de parler de la marque, de raconter des choses, et ça va se faire en plusieurs rebonds, quoi. C'est parce que la marque, elle est sympa, parce qu'on a développé un sentiment d'appartenance, de proximité, c'est ça qui va faire vendre, mais potentiellement, ça va faire vendre dans 3-4 mois et pas là, à l'instant, quoi. Mais ça, c'est difficile à faire comprendre.
C'est difficile, mais tu vois, c'est malgré tout, aujourd'hui, tu parles de... Bah, c'est typiquement la base du brand content et du travail aussi de tout ce qui est content marketing, avec deux pendants un peu différents, mais ça commence à prendre, j'ai envie de dire, de manière un peu plus globale chez tous les annonceurs, où ils comprennent l'intérêt, on va dire, de justement d'être une marque sympa et de pas forcément tout de suite être dans une approche agressive. Mais il y a encore du travail pour que ça se comprenne et que ça se développe, quoi.
Mais c'est tout l'enjeu de nos métiers, Clément.
C'est une belle conclusion, ça,
du coup. Exactement ce que j'allais dire. Je cherchais une manière de conclure. Je mettrai aussi dans la barre d'infos de cet épisode, justement, l'article de Quentin Henry qui, je trouvais, était vraiment super intéressant sur cette question-là. En tout cas, je te remercie vraiment d'avoir accepté d'enregistrer cet épisode. J'espère que ça aura... D'abord, j'espère que ça t'a plu pour ton baptême de podcast. J'espère que ça vous aura plu, vous, aux auditeurs aussi, et que ça vous aura permis de découvrir et d'approfondir cette notion de contenu court et de contenu long. Voilà, merci encore à toi, Clément.
Merci à toi de m'avoir invité.
Voilà, clap de fin pour cet épisode où on a parlé stratégie de contenu avec Clément Lepleu. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur le compte Instagram de ce podcast, la grande aventure _ social media, ou à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très vite.